religion du monde, Geneviève Delrue.
Samuel Paty était de cela. De ces professeurs que l'on n'oublie pas. De ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances. De ces humbles qui se remettaient mille fois en question, comme pour secours, sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'ils préparaient depuis juillet. Encore l'été dernier, à Moulins, à vos côtés.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vibrant hommage mercredi soir dans la cour de la Sorbonne du président Macron à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine, décapité en pleine rue par un terroriste de 18 ans d'origine tchétchène pour avoir montré à ses élèves de 4e, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet. Hommage de la nation, soutien au corps enseignant, discours politique du président Macron aussi, à l'intention des promoteurs de l'islamisme.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. Car nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
Après la sidération, le temps des hommages et du recueillement s'ouvre à présent le temps de l'après. L'après Samuel Paty, avec la réponse sécuritaire, réponse d'urgence, indispensable, et puis les réponses de fond sur le moyen et long terme qui concernent le champ de la radicalisation au sein de l'islam. Ces questions, nous allons nous les poser avec nos invités en studio, Didier Lesky, spécialiste des cultes et de la laïcité, ancien chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur de 2004 à 2008, actuel président de l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions, et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mais c'est bien aux spécialistes des cultes et de la laïcité que nous poserons nos questions. Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Razika Nani, philosophe et islamologue, conférencière franco-algérienne, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France et fondatrice des Journées philosophiques d'Alger. Bonjour Razika Nani.
Bonjour Geneviève.
Et je termine ce tour de table avec Mohamed Collin, cofondateur de Saphir News, quotidien en ligne d'actualité sur le fait musulman, et également du bimensuel, vous me direz si c'est bimensuel ou mensuel, de Salam News, donc qui est la version papier, on va dire, de Saphir News. C'est bimensuel ou c'est mensuel ?
Bonjour. Bah, bonjour, il s'agit d'un bimensuel maintenant, à présent,
ah, mais voilà,
il
je
était
me suis pas
pendant
trompé.
De longues années un mensuel.
À vous trois donc, merci hein, d'être pour votre présence en studio dans une période où je suppose que vous êtes particulièrement sollicités. Alors je commence avec vous Didier Lesky. S'agit-il pour vous d'un tournant, et si oui, lequel ?
Oui, c'est un. En tout cas, c'est une étape symbolique extrêmement forte que la mort de ce professeur, puisque. D'abord, c'est pas la première fois qu'il y a un enseignant qui est tué, puisque à Toulouse, à l'école Lazare Torah, c'était un enseignant qui avait été aussi tué, mais c'est la première fois, disons, dans l'école publique, et c'est pour ça que ça crée une émotion aussi importante, parce que ça donne le sentiment qu'on gravit les étapes de l'horreur, et l'école, c'est le lieu où les questions de laïcité, de rapport religieux, ont toujours posé problème, au sens où c'est là que ont été les tensions extrêmement importantes entre l'Église catholique et les républicains. Et donc il y a quelque chose qui se réactive, non pas avec l'Église catholique, mais avec du religieux, et ça crée beaucoup d'émoi au sein du corps enseignant, puisqu'il est particulièrement marqué par cette histoire.
Mohamed Collin, tournant ou pas tournant ?
Oui, je pense qu'il y a un tournant. Ce qu'on peut mesurer auprès de nos lecteurs, c'est que je pense qu'il y a vraiment un écœurement. Là, on est vraiment dans l'écœurement de par rapport aux événements tragiques. Et à un moment donné, je pense que les gens se disent « ça suffit, barakat », comme disent les Algériens, nos amis algériens. Ça suffit, quoi. Et donc, on va passer, je pense, d'une éthique jusqu'à présent de victimisation, victimaire, à une éthique de responsabilité. Voilà, où il faut prendre ses responsabilités. Et en témoigne la tribune que nous avons publiée, celle des imams. Et il faut le dire, parce que les imams, c'est une catégorie d'acteurs qu'on n'entend jamais. On parle souvent d'eux, mais on n'entend jamais.
Ou on entend quelques-uns, voilà.
Ou quelques-uns, voilà. C'est plutôt avec un aura national. Mais les imams locaux, qui sont au plus près des fidèles, on ne les entend pas. Et là, ils se sont exprimés.
Oui, notamment celui de Lyon, d'ailleurs. Hein,
tout à fait.
L'imam Kertam, de la Grande Mosquée de Lyon, oui. Et bien d'autres.
Et bien d'autres, évidemment, bien d'autres. Parce que c'est vraiment des mosquées locales. Et c'est ça qui est important, parce que l'enjeu de l'islam de France se situe aussi à l'échelle locale. Et moins national. Ça veut dire, ce sont des acteurs qui tissent, qui entretiennent le lien avec les fidèles.
Razik Adnani.
Personnellement, je pense que c'est un drame qui s'est passé le vendredi dernier, surtout que ça s'est passé à l'école, comme Monsieur Didier Letier vient de le dire. Et moi, qui étais professeur, je connais très très bien comment la situation, comment on peut travailler avec des élèves, comment on peut leur transmettre ce qu'on a à leur transmettre, les valeurs de la République, les valeurs de la modernité. Comment on peut le faire quand on a peur d'être agressé ou d'être tué? Effectivement, là, on est dans un tournant très grave qu'il faut absolument réagir pour que les profs puissent, ou tous les enseignants, puissent travailler dans des conditions de sérénité et qu'ils puissent accomplir leurs devoirs convenablement, parce que si l'école n'arrive plus à inculquer ses valeurs aux élèves, la valeur de la liberté d'expression, le respect de l'autre, l'égalité homme-femme, la laïcité, si les profs n'arrivent plus à les transmettre, eh bien, personne ne pourra les transmettre après. Qui les transmet? C'est bien l'école. Il y a des parents, évidemment, aussi, la société en général, mais l'école, son rôle est primordial. Et c'est l'école qui est touchée, c'est la colonne vertébrale de la société française. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. Et voilà pourquoi je pense que tous les Français ont été tellement touchés par cet attentat.
Les changements attendus après l'assassinat du professeur Samuel Paty, il y a la réponse sécuritaire avec la dissolution d'associations ou d'officines pouvant constituer des relais de l'islam radical, voire du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, a annoncé son intention de dissoudre le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Interrogé par Frédéric Rivière dans la matinale de RFI, on écoute la réaction de Mohamed Moussaoui, l'actuel président du CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Écoutez, je ne partage pas les méthodes utilisées par le CCIF, mais pour autant, je pense que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle de protéger l'ordre public. Il lui appartient, dans le cadre de ce que lui permet nos principes de droit et nos institutions, d'agir contre ceux qui pensent être un danger pour l'ordre public. Nous sommes une institution qui organise le culte musulman, qui agit au niveau des lieux de culte, de l'encadrement des fidèles. Il appartient, bien sûr, je pense, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, les pouvoirs publics ont toute la latitude d'apprécier l'action de chaque organisation. Nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir apprécier la situation de cette association, le CCIF, que je rappelle qu'elle est suivie depuis quelques années. Et je pense que les pouvoirs publics sont à même de savoir ce qu'elles peuvent lui reprocher.
Mohamed Moussaoui, président du CFCM. Nous avons demandé à Najwa. Elle a été élue locale, adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes et docteur en droit public, si ce projet de dissolution du CCIF n'allait pas rencontrer de sérieux obstacles juridiques.
La dissolution, je rappelle, c'est une dissolution administrative par décret en conseil des ministres, hein, que souhaite bien sûr le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Oui, c'est possible. Par contre, il s'agit d'apporter des preuves et être très très précis. Parce qu'il faut prouver que ce type d'association se rend coupable d'apologie du terrorisme et de troubles à l'ordre public. Ou également comme propageant des théories tendant à justifier aussi la haine. Et donc ça, il s'agit vraiment d'être extrêmement précis. Pourquoi je dis ça? Parce que, souvenez-vous, en 2012 et en 2019, l'exécutif avait promis de dissoudre le groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Eh bien, il n'y est pas arrivé. Parce que, sans doute, les termes n'étaient pas assez précis au niveau du droit pour enclencher une telle dissolution. Donc là, il s'agit d'apporter des preuves et d'être extrêmement précis, parce que, d'ores et déjà, ces associations, et là je pense notamment au CCIF et à Baraka City, annoncent déjà qu'elles vont enclencher des procédures. Que ce soit en France, parce qu'elles vont épuiser les voies de recours en France, mais aussi au niveau international. Et là, je pense qu'elles ciblent la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il s'agit vraiment d'être extrêmement précis et d'apporter des preuves.
La directrice du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, Stéphanie Hennette-Vaucher, dans Libération, cette semaine disait « prendre une distance avec le droit dans des graves crises comme celles que nous traversons est périlleux ». Qu'est-ce que vous en pensez, Najwa Elaïté?
Le ministre de l'Intérieur ne prend pas ses distances avec le droit. Je comprends pas très bien ce que veut dire cette professeure, parce que dans le droit, l'exécutif a parfaitement la possibilité, là le ministre de l'Intérieur, de demander la dissolution d'une association qui, je le rappelle, propagerait la haine ou l'apologie du terrorisme. D'ailleurs, si, et le ministre de l'Intérieur le rappelait très justement, si cette procédure n'aboutit pas, c'est-à-dire que s'il y a des recours et que le Conseil d'État refuse la dissolution de ce type d'association, que dit le ministre de l'Intérieur? Il dit, bien, on va muscler le droit. Donc je ne comprends pas du tout les propos de cette professeure.
Dernière question, Najwa, elle a été, la question que je pose est à l'élu hein, local. Est-ce que ça peut être mal pris? Est-ce que ça peut être ressenti effectivement comme un acte de discrimination à l'égard de la communauté musulmane?
Non, vraiment. Parce que je rappelle que là, on est sous un état de choc terrible. On a tué un enseignant. D'ailleurs, j'ai avec l'ancien député du Nord, Yves Durand, et moi-même, avons écrit dans Marianne que le fait de tuer un enseignant, c'est assassiner la République. Donc, il y a une stupeur, il y a un état de choc. Donc, la victimisation ne va pas marcher. Et je peux vous dire que nous sommes de nombreux, et je me mets dedans, Français de confession musulmane qui rejettent fondamentalement les propos de ces associations qui veulent plus diviser que rassembler. Donc ceux qui se sentiront vraiment ciblés, c'est ceux qui prônent une idéologie mortifère des frères musulmans, des salafistes pour diviser et pour grignoter, j'allais dire, des parts de marché dans leur idéologie. Et là, je suis redondante, mais je vous confirme, la majeure partie des Français de confession musulmane qui vivent en paix en France comprennent parfaitement les mesures et comprendront parfaitement les mesures qui vont être prises par l'exécutif, parce que il faut défendre nos valeurs républicaines qui sont les garants de notre vivre ensemble nos libertés.
Najwa, elle a été, je vous remercie. Votre réaction, Mohamed Colin, au propos de Najwa, elle a été?
Alors ma réaction, déjà je suis très mal à l'aise avec l'islamophobie en tant que terme. Hein. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt les actes anti-musulmans, c'est très important, parce que à mon sens, on peut critiquer, on peut se moquer, injurier une religion. C'est extrêmement important et il ne faut surtout pas confondre entre l'injure envers une religion, une idéologie même, et je veux dire les croyants, les personnes. Voilà, c'est important de faire le distinguo. Ensuite, je ne suis pas très sûr avec le dernier propos qui a été dit, dans le sens où justement les islamistes, les tenants d'un islam identitaire mortifère, jouent sur l'esprit de victimisation. C'est pour eux quelque chose de très important. Et je vais m'expliquer, peut-être je vais prendre quelques secondes, pour dire que ces islamistes, ils entrent sur des territoires où justement les mosquées sont dans des quartiers populaires, ils sont désertés par les services publics, comme les espaces ruraux d'ailleurs. Hein. Les responsables religieux sont délégitimés, et donc ils viennent et ils essaient de se rendre utiles vis-à-vis des fidèles musulmans, pour ensuite être indispensable et se servir des musulmans comme bouclier.
Oui, c'est la stratégie des frères musulmans.
Tout à fait. Et l'enjeu pour moi, c'est moins sur la loi que sur la bataille culturelle. C'est sur la bataille culturelle qu'il faut vraiment jouer, hein, pour désarmer justement ces tenants de cette idéologie mortifère.
Didier Lesquy.
Oui, écoutez, je crois que le problème de ces associations, je pense en particulier au CCIF, c'est que il explique à une partie de la population que, de manière structurelle, la République serait discriminante. Or, c'est absolument faux. Mais en expliquant ça, en expliquant que c'est systémique du point de vue des administrations, eh bien, ça peut produire une forme de désespérance chez une partie de ceux qui l'écoutent, et en particulier chez les jeunes, parce que justement, si l'état de droit tel qu'il est, eh bien, n'offre pas de solution, il y a une possibilité d'un passage à l'acte violent, et on pourrait le comprendre si c'était vrai. Mais je rappelle qu'on est un pays, et nos auditeurs qui sont dans d'autres continents le savent bien, la France est un pays où il y a une liberté de culte, où on peut construire des mosquées, on peut manger halal si on a envie, et on peut manger pendant le ramadan, comme ne pas manger pendant le ramadan, personne ne va vous condamner, hein, pour faire une chose ou pas une autre. C'est un pays où la liberté est extrêmement grande, et où la situation des fidèles musulmans n'a pas cessé de s'améliorer ces 20 dernières années.
Avec beaucoup plus de mosquées.
Entre autres, et avec des pouvoirs publics qui ont essayé de prêter une attention particulière, justement, pour améliorer la situation de ces fidèles. Donc, expliquer que, on serait dans une situation absolument inverse que ce qui est fait, eh bien, ça peut créer de la désespérance, et c'est le discours que vous venez de dénoncer sur la victimisation, qui en réalité un discours qui ne vise pas à responsabiliser l'ensemble des croyants musulmans qui ont leur dignité et qui ont le droit de croire, mais qui dont les responsables n'ont pas pris suffisamment en charge ces dernières années le fait qu'il faut arriver pour eux à construire un discours à partir de leur foi, une théologie qui puisse contrebalancer l'intégralisme, le littéralisme, qui est un danger, et en particulier un danger pour nos jeunes, hein, parce que c'est l'exaltation de la mort plutôt que l'exaltation de la vie. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y ait un Dieu qui aujourd'hui soit légitime à exalter la mort. Je crois que ceux qui nous ont créés, s'ils nous ont créés, eh bien, nous espèrent vivants et pas morts.
Razika Nani, je suppose que le terme « bataille culturelle » employé tout à l'heure par Mohamed Collin, en disant « voilà, la vraie bataille, c'est la bataille culturelle », vous êtes d'accord, non ?
Oui, je suis d'accord avec l'idée de la bataille culturelle, mais j'aimerais juste revenir sur le terme de l'islamophobie. Pour moi, il renvoie à deux choses. La première, c'est que je n'ai rien à me reprocher. C'est l'autre, se comporte mal ou me critique. Il me critique sur un fond qui n'existe pas. Il imagine des choses, mais il n'y a aucune preuve qui lui permette de me critiquer, sauf qu'il a peur de moi. D'une manière, la phobie est une peur qui n'est pas fondée, une peur qui est imaginaire.
Irrationnelle, vous
voulez dire. Irrationnelle. Donc l'autre a peur de moi gratuitement. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Secondo, si l'autre me critique gratuitement, je suis victime. Donc moi, je suis juste une victime. Donc sur ces deux choses-là, je ne pense pas qu'on peut construire une relation sereine avec l'autre. Même au sein de la d'une seule famille, si vous avez quelqu'un qui vous dit que moi je n'ai rien à me reprocher, c'est juste toi qui as peur de moi, je pense pas qu'on puisse vivre ensemble. Donc pour vivre ensemble, pour construire une société sereine, il faut être à l'écoute de l'autre. Si l'autre s'exprime, il faut l'écouter, voir pourquoi il s'exprime, qu'est-ce qu'il a à dire. Et comme vous venez de le dire, sur le plan des idées, on a le droit de critiquer, on a le droit de critiquer les idées, les religions, et tout en respectant les personnes. Donc c'est très important. Et sur le plan culturel, je dirais que ce mot, ce concept, ce terme bloque toute possibilité de critique constructive de l'islam pour qu'il puisse s'améliorer, se réformer, s'améliorer, s'adapter à la culture moderne, aux enjeux de la vie moderne d'aujourd'hui où nous vivons avec l'autre de plus en plus. Donc si le monde s'ouvre, si on vit plus dans des société fermée sur elle-même, si on est en contact de l'autre, si les musulmans vivent en Occident, il faut qu'ils apprennent d'autres façons de se comporter aussi, une autre façon aussi de pratiquer leur religion qui permette cette relation sereine avec l'autre pour qu'on puisse construire une société sereine sans violence. Sinon, comme vient de le dire Didier Letieu, on va vers la violence. Il n'y a pas d'autre solution s'il n'y a plus de dialogue. C'est la violence qui parlera dans ce cas-là.
Oui, c'est ce que Philippe Diribarne disait dans son livre « Islamophobie, intoxication idéologique ». L'islamophobie entretient le ressentiment au lieu de favoriser la concorde. L'islamophobie pousse à la sécession au lieu d'encourager le rassemblement. Il y a en France des forces qui poussent à la sécession, Mohamed Colin.
Oui, absolument. Il y a cette idéologie mortifère qui souhaite créer des bantoustans musulmans avec une économie qui tourne autour d'elle et qui lutte justement contre l'intégration pleinement des musulmans dans la composante nationale. Ça effectivement, c'est un fait.
Razi Kanani, sur l'islamophobie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais dire que dans l'histoire de l'islam, les musulmans, les conservateurs, ont mis un certain terme pour justement bloquer la pensée, bloquer l'esprit critique. Et l'islamophobie vient s'ajouter à cette liste. Et je voudrais rappeler, les musulmans qui vivent dans les pays musulmans, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ils connaissent ce concept en langue arabe, « al-khawf min al-islam », avant même qu'il ne soit utilisé en Occident. Il était déjà utilisé contre les musulmans dans les pays musulmans, dès lors qu'on essaye de critiquer l'islam ou de dire une autre idée qui ne correspond pas à l'idée des conservateurs. Donc, c'est une stratégie, évidemment, que ce terme il est utilisé dans cette stratégie de bloquer tout esprit critique au sein de l'islam.
Vous êtes bien sur RFI et vous écoutez Religion du Monde. Peut-on parler des religions à l'école ? C'est le titre du livre d'Isabelle Saint-Martin, ancienne directrice de l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions, livre publié en 2019 chez Albin Michel qui retrace l'histoire de l'enseignement des religions à l'école dans le cadre de la laïcité, enseignement qui se déroule au sein de différentes disciplines.
Oui, on peut parler des religions à l'école en France. Il faut le rappeler, il n'y a pas dans le programme scolaire français de cours confessionnels, d'approche catéchétique ou autre. On en parle de manière laïque, c'est-à-dire à travers les différents programmes, histoire, lettres, musique, langue, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Simplement, on approche des faits religieux, comme on dit en France plutôt, c'est pas un cours d'histoire des religions, donc on les approche contextualisés à travers ces programmes. Mais c'est tout à fait important d'en parler parce que sinon l'école serait un lieu où tabou, où on ne parle pas de ces questions-là. Alors que parler des religions à l'école, ce n'est pas une entorse à la laïcité. C'est au contraire mettre en œuvre en France cet esprit de laïcité il ne s'interdit aucun champ du savoir, avec l'idée que l'ignorance génère des peurs, des fausses représentations de l'autre, et que c'est par la connaissance qu'on peut lutter contre les préjugés. Donc parler des religions dans les différentes matières, ça permet aussi de découvrir la pluralité des systèmes de représentation du monde et de situer ses propres croyances et convictions dans le respect de celles des autres, d'apprendre cette différence des manières de voir la place de l'homme dans le monde.
À l'international, à l'étranger, Isabelle Saint-Martin, parler des caricatures, ça n'est pas du tout compris. En tout cas, ce sont les réactions qui sont remontées. Comment expliquer qu'en France, oui, on peut effectivement aborder cela à l'école?
Oui, ça peut se comprendre, mais il faut voir que dans les cours d'histoire, le dessin de presse, la caricature font partie des supports qui peuvent être utilisés pour aborder différents sujets politiques, sociétaux et autres. Et on apprend à avoir un regard sur ces objets. Quand on va présenter des caricatures récentes et l'affaire des caricatures de Mahomet en lien avec la liberté d'expression, on les montre en les situant, en les mettant en perspective avec une histoire de la caricature, avec les caricatures au moment des guerres de religion, avec les caricatures très vives qu'il y a pu y avoir en France à la fin du 19e siècle autour de la mise en place de la séparation des églises et de l'État, caricature anticléricale d'une très grande violence. Donc il y a tout un contexte et il est important d'éduquer à l'image, d'éduquer un rapport de distance entre ce qu'une image, un portrait et plus encore une parodie disent par rapport au représenté. Donc le but d'un cours sur la liberté d'expression, ce n'est bien sûr pas d'apprendre à se moquer des religions, c'est pas ça le propos. Le but, c'est d'apprendre à supporter la contradiction, à supporter éventuellement la moquerie, à voir d'autres manières de se représenter le monde sans se sentir directement visé, offensé, mais à entrer dans un débat.
Isabelle Saint-Martin, donc ancienne directrice de l'IESR. Didier Lesky, est-ce que c'est une exception française ce qu'Isabelle Saint-Martin, votre prédécessrice à l'IESR, vient nous expliquer?
C'est un peu une exception française, mais parce que la laïcité française est une exception française. La laïcité, ce n'est pas la substitution d'une religion qui serait la laïcité par rapport aux autres. Hein, c'est un espace juridique dans lequel chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Et l'idée qui est au cœur de l'enseignement du fait religieux, c'est que la religion, c'est un fait objectif de civilisation et qui explique une partie de la géographie, je dirais, de l'histoire, de la construction des cathédrales en France, une partie de la littérature, les tableaux, et que ne pas connaître cela, eh bien, ça ne permet pas de comprendre, par exemple, l'intensité des drames qu'on peut connaître dans une partie du monde qui est liée à l'affrontement, par exemple, entre chiites et sunnites. Si on n'a pas cette connaissance-là, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a cette fracture et ces tensions qui ont des effets jusqu'ici. On ne peut pas comprendre l'arrivée massive de Syriens si on n'a pas aussi la compréhension de ce qui se joue comme soubassement. Pareil, en Irak, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en termes d'émeutes, de djihad du monde sunnite si on n'a pas une compréhension de ce que c'est que le chiisme et le sunnite et le type d'affrontement qui est comparable à ce que nous, on a connu entre protestants et catholiques, avec cette idée qu'il y a une sorte de décalage temporel. Hein, il y a malheureusement des parties du monde qui ressemblent à ce qu'a été la France au XIVe ou au XVIe siècle. Et il y a ce choc qui vient jusqu'à nous, parce qu'il y a une forme de choc de temporalité. Et nous sommes victimes, nous, à travers les attentats, d'un choc de temporalité et qu'on ne peut comprendre aussi que si on arrive à analyser ce qu'est objectivement la place de la religion dans la construction des sociétés.
Isabelle Saint-Martin, Mohamed Colin, donc expliquait effectivement cette mise en perspective des caricatures qui ont existé, il y en avait beaucoup, lors de la séparation des églises et de l'État, hein, au début du XXe siècle. Donc c'est une mise en perspective historique. Est-ce que, malgré tout, malgré cette mise en perspective, ça reste inaudible pour beaucoup de musulmans et de jeunes musulmans et de parents d'élèves musulmans? Parce que c'est ça qui s'est posé, bien sûr, à propos de cet assassinat de professeurs.
Effectivement, c'est assez compliqué, mais je dois dire, il y a un effort de pédagogie à avoir, et il faut que, en gros, les musulmans acceptent que on puisse bouffer de l'imam, comme auparavant on avait bouffé du curé. Voilà, c'est un peu aussi le sens un peu de l'histoire. Il faut l'accepter. Et Safir News est lu aussi à l'international. Et j'ai envie de dire aussi qu'on a un vrai souci de compréhension vis-à-vis des pays, surtout du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Hein, parce que Safir News est en quelque sorte la seule fenêtre pour comprendre un peu le fait musulman en France. Donc du coup, ils font l'effort de traduire et sur la question de la laïcité, ils ont l'impression qu'elle est anti-musulmane. Donc on est obligé de mener tout un effort de pédagogie en expliquant qu'au contraire, c'est une chance pour les musulmans de France.
C'est tout bénef, j'allais dire.
Absolument. Ce qui permet aussi la garantie de la diversité de l'islam de France, qui est un enjeu considérable.
Avant de poursuivre sur la laïcité, quelques mots sur l'enseignement des religions et de la laïcité à l'école avec Éric Vincent, expert du fait religieux et de la laïcité, qui est en charge à Sciences Po du programme Emouna, qui est un programme original destiné aux responsables des cultes et aux responsables associatifs. Une formation donc destinée à renforcer la connaissance mutuelle des religions dans une société laïque. Alors très au fait des questions de l'enseignement des religions et de la laïcité à l'école, Éric Vincent relève que dans l'école en France, les enseignants manquent de formation dans ce domaine.
Les enseignants, sauf exception, dans l'état actuel des choses, n'ont pas accès à des formations initiales et continues, je dirais, à la hauteur des enjeux et de la difficulté de la tâche sur ces thématiques. Et donc là, je pense qu'il y a un effort absolument essentiel à produire dès que possible pour accompagner les enseignants, les outiller sur ces sujets qui ne sont, je dirais, en soi pas infaisables. Simplement, ils sont ultra sensibles, on le voit bien, hélas, suite à la catastrophe qui vient d'arriver.
Les outiller, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prévoir un programme très spécifique concernant, par exemple, la laïcité ?
D'abord, je pense que c'est sortir d'une sorte d'aveuglement sur la façon de présenter la laïcité à l'école. C'est-à-dire que la laïcité, surtout pour des jeunes enfants, est à peu près, j'allais dire incompréhensible, en tout cas difficile d'accès, très abstraite pour des enfants de 12 ans. Et bon, et a fortiori s'ils sont plus jeunes. C'est-à-dire que la laïcité devient beaucoup plus compréhensible si on explique ce qu'elle régule. Et que régule-t-elle cette laïcité ? Elle régule l'expression des faits religieux, d'abord, et des faits convictionnels. Et donc, elle a un rapport intrinsèque avec le religieux. Or, justement, si on n'arrive pas à parler du fait religieux à l'école, vous voyez, par ricochet, je dirais, la laïcité devient difficilement exprimable, compréhensible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser les deux en même temps, le fait religieux et la laïcité, la formation au fait religieux et la formation à la laïcité. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces deux jambes, en quelque sorte, dont on a besoin, sont rarement reliées. On parle beaucoup, beaucoup de la formation des enseignants à la laïcité, mais on parle beaucoup moins de la formation des enseignants aux faits religieux, et j'allais dire aussi aux faits islamiques, c'est-à-dire que la dimension islamique des faits religieux, qui est bien sûr pas la seule, mais pour comprendre l'islam, pour pouvoir en parler de la meilleure façon possible à l'école, on a besoin d'avoir des éléments généraux sur les faits religieux. Vous voyez, donc de savoir ce que c'est qu'un symbole, de savoir ce que c'est qu'un rituel, de savoir ce que c'est le sacré et pourquoi certains ont une sensibilité plus grande que d'autres à cette dimension de l'expérience humaine, etc., etc. Donc là, il y a vraiment, je dirais, ce besoin de formation spécifique. Et je dirais le point clé pour moi, le plus urgent, c'est d'abord à l'université. C'est-à-dire que pour qu'on puisse agir à l'école sur ces thématiques, il faut que les enseignants, dans le cadre de leur formation universitaire, initiale, vous savez, donc un prof d'histoire quand il est à la fac d'histoire, un prof de lettres quand il est à la fac de lettres, ainsi de suite, puissent avoir tous les éléments de formation sur laïcité et fait religieux dans leur cursus initial. Donc, créer partout, dans toutes les universités, des chaires d'enseignement, des faits religieux, de la laïcité, par exemple, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Vous voyez ? Donc là, on a une mesure concrète, réalisable, qu'on pourrait mettre en œuvre à la rentrée prochaine et qui permettrait de vraiment agir sur ce volet éducatif pour contrer les idées fanatiques.
Éric Vincent, responsable du programme Emouna à Sciences Po. Vous vouliez ajouter quelque chose, Razika Nani ?
Moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les musulmans, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, ils étaient dans un processus de modernisation de leur société et l'idée de la laïcité a commencé à être acceptée par certains, même si peut-être pas tout à fait comme on la conçoit en France, mais elle a été en Turquie, Kemal Atatürk donc a déclaré que la Turquie était un pays laïque. Dans les pays musulmans, il y avait des débats autour de la laïcité. Il y a un débat qui est très connu entre Mohamed Abdo et Farah Anton qui discutaient justement de ce concept de laïcité. Et beaucoup de pays musulmans ont entamé une sorte de sécularisation qu'on pouvait comprendre à l'époque comme si on allait après vers cette laïcité. Ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs ont réagi pour désigner cet Occident comme le monde de, ils l'ont diabolisé l'Occident, ils l'ont présenté comme le monde du mal en lui-même, le monde anti-religieux, là où le sacré est mort, le monde qui est l'ennemi de l'islam. On a grandi. Et moi, je fais partie de cette génération. On a grandi avec l'idée que l'Occident transmet des valeurs contre l'islam et c'est un ennemi de l'islam. Donc, il faut faire attention à cet Occident-là. Évidemment, les musulmans qui sont arrivés vivre en France, il faut savoir que le discours conservateur dans les pays musulmans se sont bien intéressés à ces musulmans d'Occident pour ne pas les laisser s'intégrer dans la société occidentale et notamment en France, en leur rappelant toujours que l'Occident n'aime pas l'islam, que c'est contre l'islam, et etc. Donc voilà ce qui a créé cette réticence aujourd'hui qu'on voit beaucoup chez les jeunes qui n'existait pas chez leurs parents. Et donc chez leurs parents, il y avait cette volonté de s'intégrer et cette volonté aussi d'accepter la laïcité, de comprendre que la religion, ils pouvaient la vivre totalement, d'une manière totalement libre chez eux, d'une manière privée, mais dans l'espace public, il faut respecte l'espace public pour ne pas heurter les autres, quelle que soit cette religion. C'était tout à fait accepté jusqu'au retour du religieux et des conservateurs. Donc, ce n'est pas la laïcité qui pose problème, c'est le retour du religieux et des conservateurs qui pose problème.
En 2017, Didier Lesky, vous avez publié aux éditions du CERF « Misère, au pluriel, de l'islam de France », d'ailleurs livre qui est actuellement, qui vient de ressortir en version poche. Comment lire aujourd'hui ce livre « Misère de l'islam de France » ? Encore plus de misère ? Quand on voit cet attentat qui, effectivement, donne une image terrible, qui est très douloureuse pour les musulmans.
Non, je pense que quand même la portée de ce drame, la portée symbolique de ce drame oblige à un sursaut. Voilà, je vois, on a vu des tribunes d'imams, des regroupements qui disent qu'ils sont prêts à prendre en charge la question essentielle, c'est comment faire en sorte que une partie des fidèles musulmans ne se perdent pas dans le littéralisme ou dans quelque chose qui irait à l'encontre même des intérêts des musulmans qui sont en France. Et en particulier, en tout cas je l'espère, il y a un sursaut des responsables de mosquées, parce que il faut quand même rappeler que le cœur des mosquées, eh bien ce n'est pas le djihadisme, c'est un islam qui est certes conservateur mais qui est tranquille, et que les associations dont on parle comme les actes qui ont été commis l'ont été par des personnes qui en réalité sont très en marge des mosquées, hein, et que ce qui est important, c'est d'arriver à remobiliser le cœur des mosquées. Mais je dirais dans tous les sens, notre problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui culturellement musulmans mais qui sont trop loin des mosquées, hein, et qui abandonnent en réalité le peuple des mosquées, et il faut arriver à retrouver un lien, et j'espère qu'ils sont en train de le faire. Enfin, le cœur du sujet, ça vient d'être dit, c'est la capacité à élaborer un discours à partir de sa foi qui est légitime pour contrer les mauvais discours qui nous viennent de l'autre côté de la Méditerranée, mais et qui sont aussi liés à des actes. Hein. Par exemple, vous avez très certainement des auditeurs en Algérie. Le fait que quelqu'un puisse être condamné à 10 ans de prison parce qu'on rentre chez lui hein, et on trouve un vieux Coran dont une page est déchirée, c'est impensable ici. Je veux dire, la police peut pas rentrer ni dans un foyer de confession musulmane, ni dans un foyer de confession chrétienne, ni dans un foyer de confession juive, hein, trouver une Torah, une Bible ou un Coran et dire il y a une page déchirée, je vous condamne à 10 ans de prison. La laïcité, c'est que justement, on ne peut pas être condamné à 10 ans de prison parce que on a un Coran ou une Bible ou un Talmud qui est chez soi et qui serait légèrement abîmé.
La laïcité, c'est la protection. Je me tourne vers vous, Mohamed Colin. Vous avez publié une belle tribune, celle d'Eva Janadin, qui est une femme qui est imam, qui écrit « Chaque fidèle de l'islam doit quotidiennement incarner un islam éclairé en rejetant toute interprétation qui encourage la discrimination des femmes, des homosexuels, des non-musulmans et en acceptant pleinement la liberté de conscience et d'expression. » Je continue. « De nombreuses musulmanes et de nombreux musulmans éclairés le font déjà en sortant de leur silence, en acceptant de dire que... Oui, les attentats se réclamant de l'islam ont bien quelque chose à voir avec l'islam. Mohamed Colin, votre commentaire.
Oui, c'est la bonne nouvelle et l'optimisme qu'on peut avoir de oui. l'islam de France. C'est qu'il y a des mouvements effectivement émergents qui s'inscrivent dans cette interprétation des textes, cette herméneutique et qui proposent des interprétations qui soient en adéquation avec notre temps, la vie en société et qui acceptent surtout le pluralisme hein, de notre société. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, ce qu'il faudrait, et puis c'est en train de se faire, que ce soit qu'il y ait un véritable mouvement d'éducation populaire, on va dire, de sensibilité musulmane, qui puisse être la courroie de transmission entre les intellectuels qui font ce travail, ces réformistes, et la base, et la jeunesse. Ça, c'est extrêmement important.
Il y a une courroie de transmission qui manque, là, en ce moment.
Voilà, absolument, tout à fait. Alors, il y a les scouts musulmans oui. qui font quelque chose, mais voilà, il faudrait amplifier un peu ce mouvement.
Razik Annani.
Personnellement, je pense que, en France, mais ailleurs aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de musulmans qui se posent des questions, qui veulent une autre façon de concevoir l'islam. Personnellement, je travaille beaucoup sur la réforme de l'islam, mais je pense que la réinterprétation ne suffit pas, car certains textes, je dis tout simplement, ils sont pas à réinterpréter, ils sont tout simplement à déclarer obsolètes.
À abroger, si c'est votre terme.
Sinon, on va rentrer dans une interprétation contre interprétation jusqu'à finir. Donc il faut prendre certaines décisions, dire que certains textes, ceux qui appellent à la violence, ceux qui discriminent les femmes, ceux qui discriminent les non-musulmans, tous ces textes-là sont à remettre dans leur contexte et déclarer qu'ils sont aujourd'hui obsolètes. Et en même temps, je pense que c'est faisable qu'on travaille sur les textes aussi pour mettre en valeur certains versets qui ont une portée universelle. Et j'aime bien rappeler le verset qui dit « On a honoré le fils d'Adam ». On a honoré l'être humain. On honore l'être humain, autrement dit, on peut pas lui faire du mal, on peut pas le tuer. On le sacralise d'une certaine manière. Ce verset-là, les musulmans ne le prennent pas en considération. C'est vraiment... j'aimerais bien que les musulmans le mettent en avant plus tôt.
Vous êtes pour désacraliser une partie du texte
hein? Je suis pour abroger certains textes. Et c'est faisable en islam, étant donné que le Coran lui-même abroge certains textes, étant donné qu'il y a certains textes qui autorise par exemple la consommation du vin et d'autres non. Donc les musulmans ont dit bon, ceux qui l'autorisent, on les abroge. Donc c'est déjà fait. Et pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour d'autres textes qui posent problème?
Mohamed Colin, je vous vois réagir.
Oui, moi je suis absolument d'accord hein, sur cette interprétation et l'abrogation de certains versets ou les minorer. Hein, mais il faut être, encore une fois, pédagogique, c'est ça moi, c'est la pédagogie hein, parce que souvent on a des intellectuels musulmans qui font ce travail-là et il existe depuis même deux siècles, j'ai envie de dire, vous avez cité d'ailleurs des gens comme Mohamed Abdou qui ont mené ce travail-là, mais sauf qu'on a des intellectuels qui sont dans des tours d'ivoire et qui ne communiquent pas avec la base. Et c'est ça, il faut un connecteur, il faut un lien, une courroie de transmission.
Je terminerai avec vous, Didier Leschi. Vous dites, c'est dans Misère de l'islam de France, il me semble, qu'il faudrait pour le monde musulman, puisqu'il y a votre pape, hein, un Bernanos.
Non, mais pas un Bernanos, mais des Bernanos.
Des Bernanos.
C'est-à-dire des personnes qui discutent les textes, comme on peut discuter de la Bible, de la Torah et du Coran. Et il y a dans la tradition musulmane une tradition aussi de discussion. Dans le monde chiite, par exemple, on a développé des choses qui sont tout à fait intéressantes. Donc l'idée, je la reprends, c'est que pourquoi je dis Bernanos ? Parce que Bernanos, personne ne pouvait douter qu'il était croyant. Et c'est parce qu'il était croyant que quand il parle pour expliquer que on ne peut pas tuer au nom de Dieu les républicains espagnols, eh bien, il a un impact extrêmement fort parce que il a une légitimité dans le monde croyant qui est extrêmement forte. Et donc, tout le problème, c'est d'arriver à avoir des personnalités, des penseurs, hommes, femmes, qui aient une légitimité extrêmement forte dans le monde des mosquées et qui, à partir de là, puissent tenir un discours, eh bien, qui oriente la communauté des croyants vers quelque chose qui est le chemin de la vie et pas le chemin de la mort.
Alors, on va paraphraser le livre de Bernanos, Cimetière sous les dunes, c'est ça?
Oui, c'est ce que je disais, oui, voilà, oui. C'est voilà, quelqu'un qui écrit, parce que Bernanos a écrit ainsi, Cimetière sous la lune, et moi je disais Cimetière sous les dunes, enfin bon, c'est.
Non, mais c'est une image. Vous la gardez, Mohamed Colin, vous êtes d'accord avec ce?
Ah ouais, moi je suis.
Ça pourrait être un livre.
Je suis très fan, et en plus, Bernanos a pu condamner effectivement les même l'église, voilà, l'église catholique, contre Franco, qui a été soutien quand même.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est cette légitimité-là qui lui a permis.
Voilà, il ne peut le faire que parce que personne ne doute de sa foi. Ouais. Voilà, et que le problème qu'on a, qu'on peut avoir, et qui est renvoyé par le peuple des mosquées, c'est que on leur présente très souvent des personnes dont ils disent, mais au fond, est-ce qu'il est vraiment musulman? Moi, je crois que la seule définition de musulman acceptable dans un État laïque, c'est celui qui croit. Ou sinon, il y a des Français, des Algériens, des Tunisiens, enfin, des gens qui ont une identité civile et pas religieuse. Voilà, l'identité religieuse, c'est d'être croyant. Voilà, et c'est ça qui est fondamental et à mettre en avant. Et le problème que nous posent les islamistes, c'est qu'ils veulent absolument intégrer dans leur schéma de pensée, dans leur schéma social, tous ceux dont ils considèrent qu'ils doivent être nécessairement, obligatoirement croyants, parce qu'ils ont une origine culturelle qui est de l'autre côté de la Méditerranée.
Je vous remercie Didier Lesky. Je rappelle le titre de votre livre, Misère de l'Islam de France, publié aux éditions du Cerf, et également d'ailleurs La laïcité au quotidien, qui est un petit manuel
avec Régis Debray.
Avec Régis Debray, donc très intéressant, on va démer comme très intéressant. Razik Anani, Nécessaire réconciliation aussi, c'était un livre publié en 2014. Et Islam, quel problème? Les défis de la réforme.
Oui.
Donc c'était un livre publié en 2017. Et puis je recommande la lecture quotidienne de Saphir News. Merci Mohamed Colin.
Merci à vous.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.